Oh, 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 êtes-vous prêts? Non, c'est pas le Père Noël. Il va falloir que je pratique un petit peu mon oh, oh, oh. J'ai déjà fait une pub de Père Noël dans le temps qu'on devait animer puis faire des pubs. Ça, c'est au début de ma carrière. Mais c'est le temps. J'allais dire oh, oh, parce qu'il va y avoir beaucoup de chiffres de la chronique Sport Business avec notre ami Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Alors, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à l'étude, même pour une ligue qui va bien comme la NBA. Je dis elle va bien. Dans l'ensemble, elle va bien. Tout n'est pas parfait. Mais on envisage des gros changements. C'est rare qu'une ligue est prête à jouer dans son calendrier. C'est ce qu'on est prêt à faire.
Oui. Alors, la NBA, qui est toujours, à mon avis, la ligue la plus progressive, Mario, parce qu'elle a l'audace de vouloir apporter des changements dans le but d'améliorer rapidement. Il n'y a pas d'hésitation du côté d'Adam Silver, pardon. Alors, imagine-toi qu'ils ont eu des discussions avec les propriétaires d'équipe et les réseaux de télévision pour remanier le calendrier de façon dramatique dès la saison 21-22, c'est-à-dire réduire le nombre de matchs. Alors juste là, Mario, réduire le nombre de matchs, là, généralement, c'est pas très populaire auprès des propriétaires parce que réduire de 82 à 78, c'est 4 matchs de moins qui peuvent coûter aux propriétaires dans les bas mots, là, peut-être un 10 millions par équipe. Alors, il faut faire un sacrifice pour pouvoir améliorer le produit. Alors,
L'argent passe par les revenus de télé, puis c'est là qu'il faut que les cotes soient bonnes.
Ouais. Là, il faut aller les rechercher, ces revenus-là. Alors, ouais. Mais une des raisons principales pour la baisse du nombre de matchs, c'est parce que il y a comme une espèce de mouvement chez les joueurs que c'est beaucoup de 2 en 2 puis de 4 en 5 et le calendrier est lourd. Puis je t'ai déjà parlé que la NBA a réduit déjà les matchs préparatoires de 7-8 à 4-5 par équipe. Puis tu sais, c'est le même problème qu'on pourrait poser au hockey aussi. Des matchs sont difficiles puis sont physiques, puis les meilleurs joueurs de la NBA jouent souvent 35-40 minutes par match.
Ben, j'allais te dire qu'ils ajoutent des joueurs à leur alignement.
Alors, ouais, mais là, ça, c'est un coût supplémentaire, tu sais, alors, parce que le salaire moyen dans l'NBA...
Non, mais ces gars sont brûlés, que tu peux pas les faire jouer, il fallait jouer une couple de minutes
d'accord.
de moins, puis...
Ouais, je suis d'accord, Mario, mais je pense que l'idée, c'est le terme utilisé dans la Ligue actuellement, là, c'est-à-dire la gestion de temps, en anglais, load management. Ça a commencé avec Kawhi Leonard, mais il y a plusieurs joueurs qui ont bénéficié de ça, de la part des entraîneurs. Ça coûte aux partisans le fait que leurs joueurs étoiles d'une équipe ou de l'adversaire sont absents de temps en temps, puis les gens payent pour ça.
Est-ce que ça dit que leurs vedettes sont plus populaires que leur sport?
Oublie pas que la NBA, c'est un sport individuel dans un contexte d'équipe.
Pas pire, celle-là, Ray.
Oui, pas pire, Mario.
Non, mais pas venir, hein? Non, mais pour vrai, c'est ça que ça me
saute. C'est une ligue de stars, Mario. C'est une ligue de vedettes individuelles.
Et ça favorise. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent pas plus de joueurs. Parce que je les comprends. Tes vedettes sont tout le temps sur le terrain. Que tu veux pas changer la recette. Mais là, les vedettes sont fatiguées tout d'un coup. C'est dur de traîner ces millions-là.
Oui. C'est dur de traîner ces millions-là.
Larry Bird, t'as pas fatigué dans le temps, lui.
Non,
mais les autres sont fatigués.
Michael Jordan non plus. Puis le jeu était vraiment plus physique, Mario.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, les règlements sont en faveur de l'offensive et de l'attaque et d'une espèce de mouvement plus libre sur le terrain.
Ouais.
Bon, mais fondamentalement, le premier changement proposé, c'est de réduire les matchs parce qu'ils veulent insérer un tournoi en milieu de saison.
Puis ils jouent 48 minutes en plus. Je fais mon examen.
Tu lâches pas, là. Non, mais imagine un tournoi en milieu de saison qui est une excellente idée pour garder le partisan accroché, intéressé, pour augmenter la mise, l'enjeu.
Ça dépend c'est quoi l'enjeu, un tournoi
remplacer
de quoi au
juste? Remplacer le match d'étoiles qui est vieillissant dans tous les sports.
Mais en milieu de saison, tu veux faire un tournoi de quoi au juste?
Un tournoi avec un...
L'idée d'un tournoi, j'aime ça, là, mais je veux dire, ça prend l'enjeu.
Une compétition dans la Ligue, division par division, pour arriver rapidement.
Donc, tu as un autre trophée à l'enjeu pour un mini-tournoi du temps des fêtes, parce que tu sais que les commanditaires...
Genre un
March Madness professionnel en janvier ou en pleine saison. OK.
Tu comprends? Avec un enjeu.
Mais c'est pas ça qu'ils ont dit, c'est
puis
nous
avec
autres
la
qui...
possibilité de vendre. Non, c'est ça, c'est le concept. Avec la possibilité de vendre ces droits-là plus cher, donc plus d'argent qu'on génère, et garder les gens, les fans, les partisans, les médias, le monde entier plus captif autour du produit NBA. Troisième chose, faire un petit mini. Une mini qualification des positions numéro 7, 8, 9, 10 pour accéder au 7e et au 8e rang, Mario, à la fin de la saison. Donc, un peu comme le baseball fait, un match suicide sans lendemain pour ce qu'on appelait les meilleurs deuxièmes, bien là, ils vont faire 7, 8, 9, 10, 7 contre 8 pour le 7e rang, 9 contre 10 pour le 8e rang, et là, les séries commencent. Donc, tu gardes encore des partisans plus engagés, plus connectés, plus longtemps, jusqu'au dernier week-end, puis là, tu auras un match de plus.
Est-ce que le hockey va suivre?
c'est, tout est possible pour le hockey parce que c'est un sport qui joue en parallèle dans les mêmes amphithéâtres et le même nombre de matchs et à peu près au même moment dans l'année. Alors, c'est possible que le hockey envisage ces choses-là, mais pas pour le moment. Puis le dernier changement, c'est après la... Quand tu arrives en finale de conférence, Mario, c'est de reclasser les équipes 1 à 4 pour favoriser la possibilité que un affronte deux en finale de la NBA. Autrement dit, si un club comme l'an dernier dans la Ligue nationale de hockey, Columbus, Islanders, Caroline, avaient toutes sorti des bonnes équipes, ben quand ils arriveraient en conférence, là, en finale de conférence, ils seraient reclassés automatiquement quatrième. Pour eux, leur donner un chemin plus difficile pour atteindre la finale, mais pour favoriser les
autres. Au moins
équipes.
Valoriser les performances de la saison régulière.
Voilà, donner plus d'importance à la saison régulière. Encore une fois, pour attacher plus d'intérêt puis plus de gens engagés. Fait que ça, c'est le point sur la NBA. Puis je termine en disant que cette année, là, les cotes d'écoute de la NBA, Mario, sont à la baisse. Entre 13 et 23 %. Puis une des raisons, c'est que la NBA a fait un choix il y a quelques années là, de signer cette grosse entente-là de 9 ans pour 24 milliards de dollars de la part des diffuseurs ESPN et Turner, qui sont tous les deux décablés. Donc, tu as besoin d'un abonnement. Donc, le grand public à la télé, ce qu'on appelle over the air, là, la télé libre, n'a pas accès aux matchs de la NBA. Donc, ce qui fait que tu perds des cotes d'écoute en faveur des revenus supplémentaires que tu as engagés.
Autre sujet, on va rester dans les gros chiffres puisqu'il sera question de l'évaluation des équipes de la NFL par Forbes.
Oui, ben là, c'est l'étude annuelle, les cinq ligues. La NFL est sortie. La constatation, c'est que ça continue d'augmenter, Mario. Les Cowboys de Dallas valent 5,5 milliards de dollars sur des revenus records de 950 millions de dollars de revenus. Pas un profit, mais le revenu. Ça, là, c'est comparable maintenant à un club comme Real Madrid, FC Barcelone, Manchester United. Là, quand tu frôles le milliard de dollars en revenus générés, avant tes dépenses, bien sûr, c'est pas le profit. Mais les Cowboys, c'est une grosse, grosse machine à sous.
Encore la plus grosse?
De loin. Parce que la deuxième, c'est les Patriots. Alors, on part de 5,5 milliards à 4,1 milliards. Il y a une marge. Et les Patriots sont deuxièmes.
Comment ça fait que c'est le club qui ne gagne pas, qui vaut le plus cher?
Parce que les Cowboys, c'est l'emplacement, c'est le stade, le AT&T Stadium, qui a coûté 1,5 milliard. C'est le centre d'entraînement qui en a coûté 1,4 milliard. T'sais, autrement dit, l'investissement en capital, okay, en infrastructure des Cowboys est beaucoup
plus grand. Ils ont plus d'actifs, tout simplement. Donc, ça ne dit pas tout sur le rayonnement
de
la marque.
Mais il y a aussi plus... C'est eux
qui
génèrent...
Parce que les Patriots, c'est dur de battre une équipe qui a gagné autant de Super Bowl que les Patriots, alors que les Cowboys...
Il n'y a aucune comparaison. Tu as raison. En termes de performance sur le terrain...
Donc, ils ont investi plus dans les, dans
oui,
les infrastructures.
Mais ils ont aussi une marque, un brand. Le brand des Cowboys, il est plus... Il est plus national à travers l'Amérique.
Il date.
Les Patriots ont changé leur logo au milieu des années 90.
Mais Paul, je dis pas que le logo date. Je dis la gloire qu'incarnait le logo commence à dater.
Ça fait longtemps, mais il y a eu quand même des grands joueurs légendaires de Roger Staubach à Tony Dorsett avec les Cowboys. Ils ont gagné des Super Bowls sous l'époque de...
Comme les Leafs qui n'ont pas gagné depuis 67, qui est l'équipe canadienne qui vaut le plus cher.
Exactement, hein? Exactement. Il y a quelque chose qui vient avec la réputation, le prestige de ta marque de commerce. Ouais. Puis les Cowboys, eux, sont encore America's Team, c'est-à-dire l'équipe la plus aimée, mais aussi l'équipe la plus détestée. Mais ça vaut quelque chose, tout ça. Alors, c'est pour te dire que dans ce business-là, des équipes de la NFL, là, Mario, la moyenne des équipes cette année là a atteint 2,9 milliards de dollars. Un pas pire chiffre.
Pour un sport nord-américain.
Pour un sport nord-américain qui est relativement local, qui a peu de tentacules dans le monde entier. Ils jouent des matchs à Londres, ils font des petites visites en Asie, mais le football américain n'est pas pratiqué ouvertement comme le soccer, comme le basketball peut l'être à travers le
monde. Non. Ça n'a rien à voir. Tu vas me parler d'une association avant-gardiste, ou en tout cas qui annonce peut-être des associations semblables dans le futur, entre YouTube et le Liverpool FC.
Oui, bien, Liverpool FC, c'est une des grandes marques de sport dans le monde. C'est l'ancienne équipe de George Gillette et Tom Hicks. Pour situer les gens, dans la Premier League en Angleterre, t'as Manchester United, t'as Chelsea, t'as Arsenal et t'as Liverpool FC. Et Liverpool, une équipe classique qui, vraiment dans une communauté où les gens ne pensent qu'à leur club de football, ont déjà une entente avec YouTube pour la diffusion de faits saillants sur YouTube gratuit. 3,4 millions d'abonnés dans le monde entier, suivent les faits saillants, les exploits de leur équipe préférée sur YouTube. Mais là, la relation qui vient d'être signée cette semaine, c'est YouTube abonnement. Il va falloir que tu payes jusqu'à concurrence d'à peu près 1,5 $ canadien par mois. Fait que tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais quand tu multiplies ça par 3,4 millions, c'est des revenus possibles d'à peu près 700 000 $ par mois. OK? Et là, non, mais c'est important, là.
Ben oui.
Parce que ce que je veux dire, par, non, excuse, j'ai dit 700 000, pardon, 7 millions de dollars. OK? 7 millions de dollars par mois de plus pour simplement donner un peu d'accès, ce qu'on appelle privilégié, un accès premium à des entrevues.
Du 24CH, là, du Liverpool CH, mais que tu payes pour.
Que l'équipe a déjà, mais là, ils vont en mettre plus.
Ouais.
Plus d'exclusivité, plus de rareté dans le contenu, plus de petits morceaux à consommer pour les fans de Liverpool dans le monde entier.
Tu parles pas des matchs diffusés, là. Ça, c'est DAZN,
c'est
ou en tout cas,
ouais,
d'autres diffuseurs.
Exactement, Sky Sports en Angleterre, et ainsi de suite.
Okay.
Alors, tout ça pour dire que c'est une autre forme de revenu nouvelle qui s'invente, et c'est là que les équipes se dirigent de plus en plus, c'est-à-dire créer d'inventer des sources de revenus pour leur produit qui est le contenu sportif.
Un gars pris en flagrant délit de paris sportif, mais c'est un athlète, un joueur des Cards de l'Arizona à ne pas faire. Ça nous rappelle un cas célèbre, bien sûr.
Ouais, ben tu sais, Josh Shaw, là, des Cardinals, c'est un demi-défensif qui a eu des difficultés tout au long de sa carrière en termes de comportement, mais c'est un joueur étoile quand même qui est très bon avec les Cardinals d'Arizona. Imagine, là, qu'il était suspendu pour plus d'un an, jusqu'à la conclusion de la saison 2020, pour avoir parié sur le produit NFL, et même sur les Cardinals. Moi, ça me rappelle l'histoire de Pete Rose. Et Pete Rose, qui est peut-être le meilleur frappeur de coup sûr dans l'histoire du baseball majeur, toujours pas dans le temps de la renommée, parce qu'on lui reproche d'avoir misé sur les Reds et sur le baseball à l'époque où il était directeur gérant là, sur le terrain. Et là, Joshua fait pareil, malgré le fait que la NFL a eu des formations préparées pour plus de 10 000 employés, joueurs et membres de l'administration de la Ligue.
Sur quoi ne pas
concernant
faire.
L'intégrité du sport, wow, et des paris sportifs, puisqu'il y a une grande ouverture de ce côté-là depuis à peu près un an. Alors, dommage, mais c'est un message très sérieux que la Ligue ne peut pas se permettre de perdre dans les yeux du public son intégrité face à la Ligue.
Excellent, varié, encore une fois, instructif. Merci beaucoup, Ray. C'était la chronique Sport Business et je rappelle à tout le monde qu'on peut te suivre sur Twitter, bien sûr, à @RealRay. Lalonde, évidemment.
Merci, Mario.
Je te dis à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Et Mario Tremblay, de même que Benoît Brunet, s'amène dans la danse dans quelques instants.